My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
On a fait quatre différentes variétés de salades. On a trouvé deux variétés locales. Et une variété que Magali, elle a eu d'une
vieille dame de 80 ans qui m'a envoyée. Qui a pas de nom, une variété qui a pas de nom et que son papa a ramené en 1945 de l'Est, elle sait pas si c'est de l'Est de la France ou d'Allemagne, et qui a été cultivée chaque année dans sa famille, et quand son papa est mort, elle a récupéré la semence, et là elle m'a dit, je commence à être âgée, j'ai peur, voilà, c'est une super salade, je l'aime beaucoup, donc je t'envoie quelques graines, sachant que voilà, tu refais des graines et que c'est une bonne variété que j'aime beaucoup, j'y suis attachée et voilà, elle m'a envoyé quelques graines, j'ai testé, on a testé et puis c'est une très bonne salade effectivement. Voilà, donc on est en train de la refaire.
Tous les quatre variétés, ils font des très grandes têtes. La plus lourde a eu 1,2 kg.
Waouh, la salade,
oui,
elle faisait 1,2 kg.
Oui.
Waouh.
Et bon, on est tous des amateurs, des gros amateurs de salade.
Donc là, vous avez trouvé de quoi vous satisfaire, de quoi vous régaler.
Oui, et ma préférée, c'est la rouge Sevenol.
Alors ce matin, dans les Enfants du Nouveau Monde, on est au Mas des Buissières à Saint-Bresse, dans un petit collectif qui travaille sur la redécouverte de semences anciennes et locales. Donc ils ont un petit bout de terre qu'ils cultivent ensemble et ils laissent pousser les fleurs, monter en graines, et puis ensuite ils ramassent donc les semences avec l'aide de Magali. Magali, salut.
Bonjour.
Toi, t'es formatrice sur la question des semences. Tu enseignes aux gens à faire leurs semences.
Oui, c'est un savoir qui s'est perdu en quelques dizaines d'années, en 50 ans, en l'espace d'une à deux générations, et qui est à redécouvrir. Et donc oui, je fais mes semences depuis un peu plus de 20 ans.
Mm-hmm.
J'ai eu une ferme, donc je faisais ça au niveau de la ferme, et puis depuis j'ai continué,
mm-hmm,
en découvrant toujours de nouvelles variétés, et certaines variétés me suivent depuis longtemps. Et voilà, donc j'ai travaillé un peu plus sur la question des techniques en agroécologie et puis des semences paysannes, au sein du réseau Semences Paysannes même. Et je me dis qu'il y a vraiment une urgence pour que les gens, il y a de la demande, pour que les gens réapprennent à faire leurs semences. Voilà, donc je suis surtout sur les potagères.
Sur les potagères, les semences potagères, donc les semences de légumes, c'est
voilà,
ça hein. Et tu travailles au sein de l'association Les Jardins du Galaison.
Alors non, je fais partie du groupe des Jardins du Galaison. En tant que bénévole comme les autres. Par contre, sur toutes mes prestations, effectivement, de formation, j'ai mon propre statut d'auto-entrepreneur. Et là, oui,
d'accord.
Voilà, sur l'aspect formation. Mais je fais partie d'un collectif au sein de l'association des Jardins du Galaison, le groupe Troquet-Don, qui travaille sur la semence.
D'accord. Alors là, donc, les bruits qu'on entendait, les battements qu'on entendait, c'était donc comment on appelle ça, là ? C'est les...
Les porte-graines.
Les porte-graines, voilà. Donc, c'est en fait... Une touffe d'herbe sèche avec des graines au bout que l'on tape dans une poubelle pour en extraire les graines.
Et donc, ça a été récolté au mois d'août, quand donc les graines étaient prêtes à tomber. Donc on a laissé les laitues qu'on a sélectionnées au fur et à mesure, on a marqué celles qui nous intéressaient. Donc soit qui montaient plus tardivement, soit qu'on a sélectionné sur la mouchetée de Salas, qu'il y en a qui avaient deux cœurs. Donc on s'est amusé un peu à sélectionner sur ce type de caractère. Mm-hmm. Et donc on a laissé monter en graines. Bon, ça demande quand même une certaine surveillance. Et puis on a récolté donc au mois d'août, au moment où les graines étaient prêtes à tomber, et on a fait sécher dans des draps, à l'abri, dans un endroit
au sec, à l'obscurité.
Pas forcément à l'obscurité, non, mais pas au soleil, mais un peu aéré. Ventilé, pour que ça sèche. Et puis maintenant on est en train de les récolter.
Voilà, donc on les a battus. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans l'ancien temps. Hein. On voit des images où ils secouaient là pour enlever les écorces des graines, etc. Puis il y avait les graines qui tombaient au fond. C'est la première fois que j'assiste à ça pour de vrai. Je suis contente.
Voilà.
Au fond, ça fait plein de mimi. C'est duveteux. Et alors après, comment vous allez trier les duvets des petites graines ?
En passant dans des tamis différents.
D'accord.
Donc on va d'abord passer dans un tamis moyen. Voilà, on va verser.
Il y a le vent.
Oui, avec le vent, ça peut vous aider à enlever les...
Ouais,
mais pas, ça, mais peut-être aussi, ça peut faire voler les graines.
Voilà.
Donc maintenant, l'idée, c'est de faire passer les petites graines à travers le tamis et de garder les mimis. Comment on appelle ça, les mimis ?
Donc là, on va trier déchets de tri, en fait. Hein. Donc là, le vent nous aide bien. Voilà, donc là... C'est un tamis de taille moyenne. Donc, il y a des tamis professionnels spécifiques. Là, on a choisi volontairement des tamis qu'on trouve dans le commerce, tout simplement, hein, des tamis de matériaux. J'ai trois dimensions différentes avec petite maille, maille moyenne et grande maille qui permet de trier en fonction de la taille des graines. Là, on a pris une maille moyenne, ça permet d'enlever tous les gros déchets.
Mmh, les feuilles, les restes de fleurs, les petites tiges et tout ça. Et maintenant, on passe au tamis plus fin.
Voilà, plus fin. Et là, on va récupérer que la graine. Enfin, il y aura encore des déchets de fleurs. Et après, on va tamiser différemment.
Ça permet de faire une petite impro djembé sur les poubelles au passage. C'est bien parce que grâce au vent, ça fait voler toutes les petits pistils là, je sais pas comment ça s'appelle.
Ça, on veut pas.
Les petits duvets.
Oui,
c'est ce qu'on souffle sur la fleur de pissenlit là, le petit truc blanc là qui.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que le tamis s'encastre pile dans la poubelle de 80 litres.
Voilà pourquoi on fait ça dans des poubelles. Hein. C'est pas parce que les semences sont des ordures, rien à voir, bien au contraire, elles sont très précieuses.
Ça va tous les poubelles, faire les poubelles. Voilà, donc il nous reste les graines avec le petit duvet blanc qui habituellement sert justement à ce que la graine s'envole. Là, on a du vent, c'est le top. Ça permet que beaucoup de ce petit duvet s'en aille.
Donc là, juste en secouant la poubelle inclinée, le vent permet de retirer le petit duvet tout blanc.
Nickel.
Les graines tombent au fond parce qu'elles sont plus lourdes, le duvet reste au-dessus et du coup, ça risque d'être plus facile à enlever à la main maintenant. Ça fait comme des moutons de poussière, en fait, ce petit duvet blanc. Et en secouant le saladier...
Voilà. Alors ça, c'est vraiment un geste... On dirait presque ancestral.
Oui, c'est ça, c'est à ça que ça me faisait penser tout à l'heure.
Simplement, c'est un plat en bambou. J'ai mis les graines dedans et simplement en jouant avec le vent, je secoue et les poussières s'envolent et la graine reste au fond puisqu'elle est plus lourde. Voilà, c'est un petit geste à apprendre, à réapprendre, on va dire. Et d'ailleurs, qui c'est qui va essayer ?
Moi, je veux bien.
Alors attends, on va mettre un drap dessous au cas où ça tombe.
Ah, ok. Ah, il y a des graines qui tombent aussi.
Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, tu peux avoir quelques graines qui tombent, mais généralement elles sont vides.
Ah non, là, t'es trop bon.
Oups. Non, vas-y. Là, prends le plus. Voilà. Plus avec le vent. Voilà, tu vois.
Ouais.
Faut prendre le coup de main. Hein. Donc, ça fait partie de ce que tu enseignes, Magali. Donc.
Ça fait partie.
Ce fameux coup de main.
Voilà. Faut essayer. Faut. apprendre à l'apprivoiser, quoi.
À manier le saladier.
Ouais. C'est que c'est les africaines qu'on voit bien faire ça.
Avec le...
Oui.
T'as mis en couleur, en maudit.
Ouais. J'en ai mis,
Il vaut mieux. Danse, prudence, que sur blessure.
Pour être tout à fait honnête, comme je n'ai rien à vous prouver, je vais vous dire de cette planète ce qui ne m'a jamais dérangé. Que deux hommes se marient entre eux du moment qu'ils sont amoureux et qu'ils aiment leurs enfants, évidemment. Et pour être tout à fait franc, comme je n'ai rien à vous cacher, tout ce qui pense et autrement, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait clair, et pour nous connaître mieux, je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux. Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain, si ça peut faire moins de misère, je le veux bien. Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser, vous avez compris la musique, vous m'emmerdez. Pour être franco de port, en y allant de but en blanc, j'ai eu beau faire tant d'efforts sur tant d'années et partout en haut. Je ne comprendrai jamais rien aux riches qui veulent toujours plus d'argent pour le cacher en fiscale niche comme c'est navrant. Je vais le dire simplement, emportez-les sous terre six pieds, et avec eux tout leur argent, vous m'emmerdez. Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie de tous vos dieux. Je ne peux faire un pas dans la rue sans tomber, ô bon dieuserie, sur une croix, un fou la rue, une Vierge Marie. Comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs, sans m'emmerder. Soit nous avons fait connaissance, il serait bon de vous dire la vérité en toute conscience qui pourrait nous anéantir. Ne me donnez jamais le pouvoir, je serai bien plus loup que vos loups. Demandez donc à ma guitare si je suis fou. Alors je reste dans mon coin, sans autre forme de procès que de vous chanter ce refrain, vous m'emmerdez. Et je n'ai nul autre besoin, vous priant de me pardonner, que de vous chanter des refrains pour vous emmerder.
Là, pendant qu'Ahmed continue à tamiser, nous, on va nettoyer le matériel pour les prochaines semences. Donc ça, c'est important, on renettoie les grilles, on renettoie les poubelles pour éviter qu'il y ait des mélanges de semences. Mm-hmm. Surtout quand on fait plusieurs, par exemple, plusieurs
salades
différentes, éviter de mélanger les variétés.
Alors, je me rapproche d'Ahmed qui s'entraîne à secouer donc, les graines. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés là, toi et ta compagne Sophie, dans ce petit collectif? Qu'est-ce qui, vous avez un jardin?
On a un potager. Depuis quelques années, on garde nos graines pour les replanter l'année suivante. Et on s'est rendu compte que parfois, on retrouvait pas exactement les mêmes caractères des années précédentes. D'une certaine manière, nos graines dégénéraient. Et donc on a eu envie de comprendre pourquoi, de savoir, et voilà. Donc quand on a appris qu'il y avait une petite formation pour faire ses propres graines, on s'y est inscrit pour apprendre un certain nombre de choses. Mm-hmm. Et puis il s'avère qu'on est allé en Amérique du Sud l'an dernier, en Colombie, et on s'est rendu compte que il n'y avait quasiment plus de variétés de plantes, quoi, en termes de plantes potagères. Hein. Par exemple, les tomates, il y a une seule variété de tomates, une variété de poivrons.
Sur toute la Colombie, il n'y a qu'une variété de tomates.
Eh bien oui, dans toute la partie de la Colombie qu'on a eu l'occasion de visiter, à chaque fois on trouvait les mêmes variétés. Quoi. Et il s'avérait que là par contre concernant la Colombie, je pense que c'est la guerre civile, quoi, la guérilla qu'il y a eu pendant toutes les années 2000 et 90, quoi, pour
avec beaucoup de largage de produits chimiques sur les montagnes pour éviter les productions de coca, etc.
Voilà, coca, marijuana et aussi les paysans ont été chassés de leurs terres, quoi. Beaucoup se sont retrouvés dans les villes à un moment donné. Mm-hmm. Et ce qui fait que toutes leurs variétés de semences ont disparu, quoi, finalement. S'il n'y a plus personne pour y planter, la plante
se meurt.
Disparaît.
Mm-hmm. Donc un appauvrissement terrible, quoi, en termes de biodiversité.
Une variété de tomates pour un pays grand comme la Colombie qui est.
Et puis en plus, la tomate, c'est originaire de là-bas. C'est originaire de l'Amérique latine, donc c'est une ironie du sort, quoi.
Tout à fait. Et donc là, on se rend compte de l'importance de conserver les vieilles semences, quoi. Parce que, c'est un peu dommage, quoi. Comme dans la terre d'origine de la tomate, et de ne plus trouver qu'une variété de tomate, c'est un peu bête, quoi. Voilà, donc toutes ces motivations, comprendre comment fonctionne le cycle de la graine, comment on préserve une variété. Et on s'est rendu compte aussi, c'est que nous, notre jardin, en France, actuellement, on a accès à, je ne sais pas, en termes de variétés de tomates, c'est pas une trentaine, quarantaine, peut-être une cinquantaine de variétés. Même si la tomate ne se mélange pas très bien, on est souvent tenté de planter plein de variétés différentes dans son propre jardin, mais après conserver de la graine de cette manière-là, ça devient compliqué parce que les tomates, même si elles ne s'hybrident pas facilement, finissent par s'hybrider, quoi.
Mm-hmm. Conserver la variété qui nous plaît
une propre variété,
et faire ses semences, conserver vraiment la pureté de telles variétés, c'est pas facile.
Exactement.
C'est ça que vous vouliez venir apprendre. D'accord, je comprends. Alors, je vais demander à Magali, justement, comment ça se passe sur ce point. Comment on fait, Magali, quand on a plusieurs variétés de tomates, par exemple, dans son potager? Comment fait-on pour que les variétés différentes ne s'hybrident pas entre elles, c'est-à-dire ne se reproduisent pas entre elles et que ça se transforme, qu'on n'arrive pas à garder la race, le pédigré de la tomate qu'on aime tant, la variété?
Alors, attends, je regarde en même temps ce que fait Ahmed là, parce qu'il expérimente des choses. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon.
Donc là, ça y est, on est arrivé à la dernière étape, pratiquement. On a affaire à de la graine bien noire. Il reste encore, bien sûr, quelques petites
trucs. Ouais, on pourrait continuer un
trucs,
peu.
Mais la majorité, c'est quand même bien noir. On a enlevé tout le duvet blanc qui est parti dans le vent.
Il reste quelques petits débris qu'on peut même enlever un peu à la main. Mais bon, voilà, là, ça n'a pas de... On ne vend pas les semences, donc il n'y a pas de souci. Voilà. En fait, au niveau croisement, ça dépend complètement en fait des espèces. Là, on parle des variétés, c'est quand on a différentes. Par exemple, on a la tomate cœur de bœuf et puis la tomate Green Zebra, par exemple. Donc ça, ce sont deux variétés différentes. Par contre, elles font partie d'une espèce et d'une famille qui sont les solanacées. Et donc là, en fait, ça va dépendre plus de la façon. Enfin voilà, je vais reprendre un petit peu sur les bases botaniques. Ça s'hybride ou pas, ça va dépendre de comment se pollinise la fleur. Si la fleur s'autoféconde, ça veut dire que la variété va se conserver plus facilement et qu'on doit avoir des distances entre deux variétés assez proches, comme les laitues. Les laitues, il suffit de les séparer de 2 à 5 mètres. Comme elles s'autofécondent majoritairement, on va garder les mêmes variétés. Ce qui nous a permis, nous, sur une parcelle de 400 mètres carrés, de faire 4 variétés de laitues différentes. Voilà, ça nous a permis ça. Pour les tomates, alors, c'est un peu le piège, les tomates, parce qu'en fait, ça va dépendre de la température. C'est-à-dire que dans nos pays tempérés, logiquement, la tomate a tendance à s'auto-féconder, à se féconder avant que la fleur s'ouvre, en fait. Mais dans les pays chauds, elle se croise. La fleur s'ouvre et elle est ce qu'on appelle allogame, elle se croise avec d'autres variétés. Donc là, c'est un peu le piège, les tomates.
Alors, c'est pour ça que dans ces cas-là, vous mettez des filets?
Voilà, donc nous, enfin, il y a plusieurs possibilités. Soit il peut y avoir des systèmes de filets avec des petits tunnels, soit on ensache la fleur.
Vous la mettez dans un sachet?
Voilà, un sachet type sachet de dragée. Il y a plusieurs techniques, en fait, qui sont utilisables. Ou alors, on ne met qu'une seule variété, par exemple le basilic. On a mis, nous, ici, sur cette parcelle ici, qu'une seule variété de basilic. On a mis que le basilic cannelle. Et chez moi, qui suis beaucoup plus loin, j'avais mis le basilic marseillais, ce qui fait que cette année, on a fait des graines de deux variétés de basilic dans le secteur, quoi.
D'accord. Voilà. Donc, quand ils ont tendance à se féconder les uns les autres, il vaut mieux les mettre à distance.
Voilà, c'est la solution la plus simple. Après, il faut bien s'entendre avec ses voisins. Il faut regarder ce qui est cultivé aux alentours. Parce que quand c'est pollinisé avec les insectes, ça peut aller de 500 mètres à voire 1 km. Quoi. Mm-hmm. Pour les courges, par exemple... Encore les courges, c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a des trucs à savoir, c'est que les courgettes ne vont pas se croiser avec le potimarron parce que c'est pas la même espèce. Par contre, dans l'espèce des courgettes qu'on appelle les pépots, il y a la courge spaghetti, par exemple, où les différentes courgettes entre elles vont se croiser entre elles. Mm-hmm. Voilà. Donc là, on peut faire des pollinisations manuelles. Donc on va féconder soi-même les fleurs qu'on va ensuite refermer. Et là, on sait que la variété est garantie.
Mmh.
Voilà.
Merci, tout un savoir-faire.
Ça y est.
Ça va ?
Oui. Alors ça, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même graine.
Alors là, c'est quoi les graines que vous avez battues ?
Oui.
C'est quoi comme plante ?
C'est la
C'est une laitue aussi, hein.
Il n'y a pas de nom.
Ah oui, c'est celle de la grand-mère.
Oui.
La salade de la grand-mère, on va l'appeler.
Après, je crois que Magali, elle a commencé un peu à faire des recherches pour voir d'où ça vient, non ?
Oui, je suis allée voir les artisans semenciers que je connais. Je leur ai montré la photo de la laitue à différents stades. Et il y a un artisan semencier de Biogerme qui m'a dit qu'elle ressemblait peut-être à une des laitues qu'il avait déjà vue et qui me passerait des graines pour qu'on puisse comparer, voir. Mais comme ça, il me disait qu'il ne l'avait jamais vue. Donc, on va voir. Du coup, l'année prochaine, je ferai le test entre la variété qu'il va me procurer et puis cette variété-là. Et puis à partir de là, on verra. Si vraiment personne n'arrive à trouver cette variété-là, moi, je pense que je vais lancer la photo sur... sur une liste à laquelle je fais partie, qui est une liste potagère du réseau Semences Paysannes. Il y a pas mal de gens un peu spécialisés et mordus par le sujet. Je vais leur poser la question s'ils la connaissent.
Si quelqu'un connaît ça.
Voilà.
Vous l'avez déjà vue, celle-là ?
Voilà.
Comment qu'elle s'appelle ?
Et si personne ne la trouve, on va
la baptiser. Tu lui trouveras un nom ?
Voilà, tout à fait. Je pense que ça sera Annick elle-même qui trouvera le nom.
Et donc, ça fait vraiment partie de votre travail et puis de l'idéal derrière de retrouver justement ces petites variétés qui paraissaient pratiquement inconnues ou détenues par quelques personnes.
Voilà, oui, en fait, c'est des variétés qui ont leur histoire. Donc là, c'est vrai que cette dame âgée m'en a parlé, elle aime beaucoup cette variété et la façon dont elle la cultive, etc. Donc, oui, c'est voir son histoire culturelle dans tous les sens du terme. Ça, c'est important. Et puis, voir comment
ça fait partie de notre culture, tout ça.
Oui, ouais, complètement. Il y en a une multitude, quoi. Il y en a déjà beaucoup qui se sont perdus. Beaucoup d'anciens sont partis avec des trésors de diversité. Et là, j'en profite pour faire un appel. C'est que si vous connaissez d'anciens paysans ou de vieux jardiniers qui font leur truc dans leur coin, allez voir s'ils n'ont pas une ou deux variétés... locales qu'ils ont conservées, qu'ils détiennent de leurs parents, grands-parents ou d'eux-mêmes. Je pense que là, on est dans une phase urgente à ce niveau-là.
Il faut vendre à la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots. Liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours du café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché. C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, Il faut doubler Dallas, dépasser Chicago, occuper tout l'espace, contourner l'embargo, court-circuiter Madrid, investir dans l'acier, faire monter l'arachide et la pâte à papier. Faut des boîtes de sardines, faut des frites en sachet, activer les turbines, compresser les déchets, éliminer l'angoisse, dégraisser, dégraisser, exporter des carcasses et du lait condensé. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Il faut vendre à la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, attendrir les vaches folles et cloner les moutons. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, topez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, 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 flip.
Alors, tout à l'heure, Ahmed m'a parlé de la Colombie où il est allé voyager avec Sophie et ils ont remarqué que la biodiversité là-bas s'était beaucoup appauvrie. Toi, tu parles aussi d'urgence pour redécouvrir les anciennes variétés. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour qu'on soit aussi dans une situation d'urgence face à l'appauvrissement des variétés ?
Bah, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont joué. Ce sont les pratiques agricoles. Où il y a eu des contextes politiques, des contextes d'industrialisation, il y a eu des contextes de guerre aussi. Tout ça combiné ont fait que on a choisi une agriculture intensive, donc avec un choix aussi d'utiliser beaucoup le minéral, ce qu'on appelle le NPK dans le jargon, c'est-à-dire les engrais minéraux. Qui ont eu un effet où effectivement dans un premier temps c'était assez miraculeux, les rendements ont fortement augmenté, mais on s'est retrouvé avec des plantes un petit peu sous perfusion en fait, qui n'avaient plus d'efforts à faire pour assimiler leur nourriture et qui du coup a créé des équilibres en fait, plus sensibles aux maladies ou parfois trop d'azote, certains insectes du coup les ont attaqués, etc. Donc du coup on est arrivé avec des usages d'insecticides, avec plus de maladies, donc des pesticides, plus de champignons aussi, donc champignons qui attaquaient les plantes, puisque les plantes étaient fragilisées. Donc hop, toute la gamme est rentrée dans... Ouais, voilà, c'est un choix en fait agricole. Et avec, donc on a fait aussi des semences, une sélection sur la semence, qui est devenue histoire de spécialistes. C'est devenu un métier, alors que jusqu'à présent, depuis 10 000 ans, c'était le paysan, le jardinier qui faisait ses propres semences, et où il y avait un accompagnement entre la plante et le jardinier ou le paysan. Où ben, le paysan, il avait toujours un petit peu ses faibles, il aimait bien celui-là pour sa forme, pour son goût, pour sa couleur. Comme tout jardinier qui aime son potager, qui va choisir un peu ses variétés parce qu'il aime bien plutôt cette couleur, parce que cette tomate, il trouve que celle-là a un meilleur goût, etc. Donc là, en fait, c'est devenu... Ben, on a séparé ça. Et on s'est dit que la sélection, ça devenait un travail de laboratoire, de spécialiste. Et les paysans, les jardiniers ont perdu ce savoir-faire en l'espace de d'une à deux générations. C'est très rapide, il suffit d'une génération. Et ce faisant, ben les graines sont restées mises de côté. Les graines ont hélas une durée de germination limitée, donc ben au bout d'un certain temps, ben elles ne germaient plus.
Si elles n'ont pas été plantées, elles se deviennent stériles.
Voilà, donc elles ne poussent plus, elles ne germent plus. Et du coup, un grand nombre de biodiversité s'est perdue. La FAO estime qu'en l'espace d'un siècle, sur la planète, on a perdu 75% de la biodiversité. Et je pense que dans nos pays occidentaux qui utilisons l'agro-industrie, on est peut-être un peu au-dessus de ça.
C'est impressionnant. La FAO, Federal Agricole Organization, c'est l'organisation agricole mondiale, quoi,
voilà.
En gros. Et c'est très intéressant ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, les plantes ont été fragilisées par le fait qu'on les a, qu'on a mis beaucoup d'apports, d'engrais, etc. Finalement, ça les a fragilisées.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on les mettait sous perfusion, en fait. D'amener des engrais directement assimilables, c'est un peu l'équivalent de mettre quelqu'un sous perfusion. Donc, il n'a plus l'effort de chercher sa nourriture, de devoir l'assimiler, la transformer, l'assimiler.
Et donc, il s'affaiblit.
Donc, voilà. Donc, il y a tout le système racinaire qui s'est affaibli. Et avec le système racinaire, on a une multitude de bactéries, de micro-organismes et autres. C'est vraiment un équilibre avec le sol. Qui existe entre la plante et le sol. Et c'est vrai qu'en accent sur l'aspect minéral, on a oublié tout cet aspect vie du sol, l'aspect microbien, l'aspect vivant. Et on est arrivé sur des déséquilibres vivants. Donc c'est vrai que ces plantes sont devenues fragilisées, en fait, si on les laisse devoir se débrouiller par elles-mêmes, elles ont beaucoup de mal.
Alors il y a l'aspect donc historique, donc effectivement ce choix d'une agriculture intensive et productiviste, et puis il y a aussi un aspect peut-être plus politique ou juridique en ce qui concerne les semences.
Alors, oui, effectivement. Bon, il y a d'autres aspects aussi hein, dans la sélection. Au niveau juridique, effectivement, en 1941, a été créé le catalogue officiel en France. On a été les premiers, sous le régime de Vichy. Donc, un catalogue officiel où, au départ, étaient décrits les variétés pour que, quand on achète une variété, on soit sûr de tomber sur la variété elle-même. Donc, c'était plus une garantie, on va dire, de variété et d'honnêteté commerciale, on va dire. Donc, un catalogue officiel a été créé et des variétés devaient être inscrites dans ce catalogue officiel pour pouvoir être commercialisées. À l'heure actuelle, ce catalogue existe toujours. Il a été étendu au niveau européen, au niveau des autres pays, à tous les niveaux. Et pour être inscrit dans ce catalogue, les variétés doivent répondre à trois critères qui sont essentiels pour l'inscription. C'est la distinction, l'homogénéité et la stabilité. Donc là, ça enlève beaucoup de variétés, ce qu'on appelle nous les variétés population, qui sont des variétés qui ne sont pas strictement homogènes, qui peuvent avoir des petites différences à l'intérieur, comme
chacun humains, de nous.
Finalement, quelque part. Donc ça enlève... Excusez-moi, c'est la poussière du tri. Donc ça a enlevé beaucoup de... Voilà, ces variétés population ne rentraient plus dans ces catalogues-là. Et on se retrouve, nous, avec des variétés qu'on ne peut pas inscrire. Bon, les inscriptions sont très, 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 très chères aussi. Donc, c'est complètement prohibitif. Et donc, on a des petits soucis de réglementation pour pouvoir arriver à continuer à avoir ces variétés commercialisées.
Donc, les variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue n'ont pas le droit d'être vendues aujourd'hui en France ?
Alors, il y a une réglementation un peu spéciale, qui évolue d'ailleurs aussi. On a une loi qui a été votée sur les certificats d'obtention végétaux en 2011, dont les décrets ne sont pas encore complètement sortis. Donc, la réglementation est en mouvance en ce moment. Il y a des révisions aussi au niveau européen. Rien n'est encore très, très fixé. Le TAFTA aussi, qui est une vraie menace, puisque les Argentins ont signé un équivalent du TAFTA et il s'en est résolu. Enfin, il a résulté des destructions de millions de tonnes de semences. Et je dis bien millions de tonnes.
Ils ont détruit les semences.
Ils allaient
chez les paysans.
Ils allaient chez les paysans et détruisaient les semences. Ça, on ne l'a pas su, mais c'est ce qui a été responsable en grande partie des problématiques de famine et de révolution agricole. Oui, c'est très révolutionnaire là-bas quand on parle d'alimentation.
Donc le TAFTA, pour que tout le monde comprenne bien, c'est le traité transatlantique vous irez voir sur Internet, mais c'est en tout cas un traité transatlantique, donc entre l'Amérique, tout le continent américain, l'Europe et peut-être d'autres, je ne suis pas très calée, mais en tout cas un accord ultra-libéral qui permet... On pourrait croire l'ouverture des marchés, mais finalement l'interdiction aussi de l'autonomie à plein de niveaux.
Voilà, ça dépend comment, dans les détails, comment sont régis chaque secteur d'activité, mais c'est l'un des dangers. En tout cas, l'Argentine a été
un exemple.
Ah oui, ça c'est clair, ça a été très très clair. Voilà, donc des réglementations, dont en tout cas actuellement pour la France. Un jardinier a le droit de tout faire. Il peut faire ses semences, il peut expérimenter, il peut se les échanger, il peut les donner. Bon, les vendre, après, on est sur des problématiques fiscales, donc...
Il ne peut pas les vendre.
Les vendre, c'est un peu compliqué, là. Voilà, en France, on n'est pas autorisé à ça. En Autriche, il peut. En petite quantité, il peut, parce qu'ils ont une autre fiscalité. Enfin, actuellement, en tout cas. Mm-hmm. Je pense à l'Arche de Noah, qui est une grosse structure où il y a beaucoup de jardiniers qui font leurs semences.
Mais quand tu parles de jardiniers, tu parles de particuliers. Tu ne parles pas de maraîchers. Voilà, c'est
de
ça.
Jardinier.
De jardiniers, de particuliers. Il faut bien distinguer, parce que du coup, la législation en ce qui concerne les maraîchers et les paysans est différente.
Alors, au niveau des paysans, des agriculteurs qui sont reconnus en tant que tels, la réglementation est différente, effectivement, puisqu'il n'a pas le droit de donner, d'échanger et de vendre de semences entre paysans, entre agriculteurs. On est passé d'ailleurs, petite remarque, au terme d'exploitant agricole.
Dit-elle avec un petit sourire plein de sous-entendus. Vous aurez noté le exploitant agricole.
Non, en fait, les mots ont un sens et je pense que là... on est quand même pleinement dedans. On parle bien de semences paysannes aussi, hein, donc ce sont des semences qui sont cultivées au champ, quoi. Voilà. Donc pour revenir au niveau de la réglementation, donc entre agriculteurs, effectivement, on n'a pas le droit de se donner.
On n'a même pas le droit de se donner ni de s'échanger des graines entre maraîchers.
Voilà, par exemple, entre.
Alors qu'il n'y a pas d'échange d'argent.
Par contre. Il est possible de le faire de différentes façons, soit à titre expérimental tant que la loi de 2011 n'est pas sortie en termes d'application, on a le droit de s'échanger des petits lots à titre expérimental, voilà, où l'agriculteur va pouvoir expérimenter sur son champ sur des toutes petites quantités, et puis si ça fonctionne bien, il récupère ses propres semences et après il peut cultiver les variétés en question. Ou alors faire partie d'un collectif, sous forme associative par exemple, où à l'intérieur du collectif, on va pouvoir se faire aussi des échanges de petites quantités.
Et ça, c'est ce que vous faites et c'est pour ça qu'on est là.
Voilà.
Car mon amour simplement, je ne voudrais qu'un baiser sur le front, un olivier nous bercerait calmement. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies, des oranges roses dents, des oranges roseraies. Car je désavoue vraiment celles et ceux qui ont souffert de quelque amour violent. Ça n'existe pas vraiment. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies, chardons et des roseaux. J'ai compté, j'ai le cœur en mille morceaux. J'organise une battue pour recoller les morceaux, pour me déséparpiller. Puis mon amour simplement ne te prendrait qu'un baiser. Sur le front un olivier nous bercerait calmement. Abrité du vent, j'invente des oliviers, les sonates des palmeraies, des oranges roseraies, des chardons et des roseaux.
Alors, je me rapproche de Yurinde parce que du coup, on parlait des maraîchers, de la possibilité pour eux ou non d'expérimenter la création de semences. Toi, Yurinde, justement, tu es maraîchère. On est chez toi, d'ailleurs, aux Bussières, avec ton compagnon, ta famille. Vous travaillez donc la terre depuis une quinzaine d'années. Et oui. Qu'est-ce qui fait que là, tu as envie de t'intéresser plus particulièrement à la création de semences ?
C'est depuis les 15 ans ou encore plus qu'on est installé. On essaye toujours d'améliorer notre terre, de trouver les techniques, les modes de culture qui sont adaptés à nos sols. Et on est toujours en recherche. Mm-hmm. Une chose, c'est qu'on dit que si pendant 3, 4, 5 ans, on cultive ses propres semences d'une variété, c'est que la variété s'adapte au sol et au climat où elle a poussé. Mm-hmm. Et voilà, c'est pour ça, ça m'intéresse cette question, de voir si j'ai moins des maladies, si peut-être la plante peut s'adapter aussi mieux au changement climatique. Mmh. Voilà, c'est pour expérimenter ça. Et j'ai commencé un peu toute seule de laisser monter quelques salades. Mais bon, c'est un travail supplémentaire et toute seule, j'arrivais pas à faire quelque chose. Et du coup, quand j'ai vu cette formation, je me suis dit, si je suis encadrée un peu d'un groupe, d'un collectif, voilà, je vais mieux réussir à faire quelque chose.
Mm-hmm. Super, donc là c'est vrai que le fait d'être en groupe pour toi c'est...
C'est un encadrement,
ça aide.
Encadrement, mm-hmm. Oui. Et puis on peut échanger, apprendre. Oui. Et on a la chance d'avoir Magali qui a vraiment tout le savoir-faire qu'on a besoin. Du coup, comme on est maraîcher, comme on a un peu de surface, j'ai proposé cette année qu'on fait une petite parcelle expérimentelle. Chez nous, on a tous les matériaux, les goutte à goutte et tout ça. Et
vous faites une parcelle consacrée aux semences,
oui,
pour votre petit collectif.
Voilà, oui. Ouais.
Et donc, vous vous êtes retrouvés à des moments clés ou vous êtes retrouvés régulièrement ?
Régulièrement, depuis le printemps. Oui, on a choisi ensemble les variétés qu'on avait envie de faire. Voilà, on a fait les quatre variétés de salade, des courgettes, des tomates, cette variété de tomates bleues.
Waouh!
que Magali, elle a récupéré à une autre formation qu'elle a fait.
Elles étaient bonnes?
Ils étaient différents, ils n'étaient pas tous pareils. Bon, mais comme il a fait très très chaud cette année, on a eu plein de maladies sur les tomates. On a bien réussi les salades, mais les tomates, on a moins bien réussi.
Ça a été plus compliqué.
Réussi, ouais. Mm-hmm. Et je ne sais pas si Magali, elle a déjà parlé du crochu des Cévennes.
Non. Qu'est-ce que c'est le crochu des Cévennes? Je lui passe la parole alors, peut-être?
Tu veux?
Ok. Merci pour la transition, Yurinde.
Alors, le crochu des Cévennes. En fait, quand je suis arrivée... moi, je suis ardéchoise au départ et je suis partie 3 ans travailler dans le Tarn, au réseau Semences Paysannes, et je suis revenue donc plus sur le secteur de Saint-Ambroise et d'Alès. J'ai rencontré le groupe des Jardins du Galaison qui rencontrait des difficultés. Ça faisait 5-6 ans qu'ils faisaient une bourse de semences à l'automne et puis une bourse de printemps de plants.
Donc là, c'est à Sandras, la Sandras. Bourse de semences, on va en parler puisqu'elle aura lieu en novembre. Là.
Voilà, le 7 novembre.
Le 7 novembre prochain.
Voilà. Et donc, ce groupe rencontrait des problèmes dans la mesure où ils n'arrivaient pas à reproduire les variétés. Ce qu'ils récupéraient, ça ne correspondait pas forcément. Et puis, ils avaient un haricot crochu des Cévennes qu'ils n'arrivaient pas à reproduire et ils en avaient déjà perdu un peu. Et donc, ça leur posait un problème. Et donc, on en a parlé. Donc, on a vu comment on reproduisait les haricots en évitant de les croiser. C'est un haricot grimpant. Et on a trouvé 8 souches différentes. Et localement, en cherchant un peu, les gens nous en ont ramené. Puis, on a cherché un peu. Voilà. Et donc là, on a les gens le sachant, ça commence à arriver encore d'ailleurs. J'ai encore des souches qui arrivent, qu'on m'envoie par la poste ou que des gens me disent « Ah, ça y est, j'en ai trouvé un !» C'est une mamée là-bas qui cultive depuis très longtemps.
Enfin, voilà. La chasse au trésor.
Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, donc là, on l'a testé. Donc il y en a qui étaient très contents du groupe, il y en a qui l'aimaient beaucoup, mais qui s'étaient croisés, qui n'avaient plus la même forme que la forme de départ. C'est un tout petit, un petit peu en forme de coco, bien arrondi, mais il est tout petit. Et il est beige, rayé de rouge, et il fonce. Il a une particularité, c'est que quand la graine a 2-3 ans, il devient foncé, marron foncé, et rayé de rouge. Et moi c'est un haricot que je ne connaissais pas du tout, c'est un grimpant qui est crochu, qui a une forme de crochet. Et donc on l'a testé et on est une bonne quinzaine du groupe à avoir essayé cette année de faire quelque chose. Bon, ça a été un peu compliqué avec la canicule. Mais nous, on a pu le goûter. Il est très très bon en verre et il a une particularité, c'est qu'il est bon et en verre et en grain, ce qui est assez rare pour un haricot. Généralement, c'est utilisé pour l'un ou pour l'autre. Mm-hmm. Et là, les Cévenols l'utilisent de côté.
Donc et façons. En verre et en grain, ça veut dire et avec sa cosse, c'est ça, on appelle ça une cosse. Donc on peut le cuire comme un haricot vert dans sa cosse ou alors on l'écosse et on sort la petite graine qui fait un haricot sec du coup.
Voilà, du coup un haricot sec.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc c'est pas le même stade de maturité.
Excellent, donc effectivement une super variété qui peut s'utiliser de deux manières.
Voilà, des deux façons. Oui, c'est vraiment une variété.
Yurinde ajoute, c'est une variété paysanne.
Voilà, donc là nous on l'a testé ici, on a mis un petit peu toute la collection côte à côte, ce qui nous a permis de comparer un petit peu les différents lots, les différentes souches, et voir un peu son comportement. Voilà. Bon, on a eu quelques soucis de canicule nous ici, on l'a mis sous filet aussi pour éviter les croisements avec les autres haricots qui sont sur la ferme. On a vu ses avantages, ses inconvénients, on a tiré des leçons du coup. C'est un grimpant et un fort grimpant et qui repart bien à l'automne. Donc là, c'est vrai que le filet l'a un peu empêché. Donc voilà, nous on a pris aussi nos leçons, on verra pour l'année prochaine une structure un peu plus élaborée, je pense.
Mais vous avez réussi à faire quand même des semences.
En tout cas, on a sauvé une souche qui était en train de se perdre. Qui datait de 2009, on a eu du mal à avoir quelques grains qui germent, on a dû ressemer 2 fois, mais celle-là on l'a sauvée, cette souche-là. On n'en a pas fait beaucoup cette année, par contre il y en a d'autres du groupe qui ont réussi à en faire davantage, ceux qui étaient un peu plus en altitude, moins ensoleillés.
Vous êtes des anges gardiens de la biodiversité potagère, hein?
On essaye de faire quelque chose dans ce qui peut être encore fait, quoi. Voilà. Avec ce qu'on peut.
Vous essayez de faire ce que vous pouvez, mais alors apparemment, c'est pas si facile. Vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide.
En fait, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps en termes déjà de recherche au niveau culturel, en termes de suivi technique aussi, de comparatif, faire ça déjà un peu plus sérieusement en termes de préservation de variété. Donc c'est vrai que là, moi, on va chercher à monter un petit programme ou quelque chose qui puisse nous aider à moi me débloquer du temps, en tout cas, de travail sur ce haricot là. Enfin, c'est en tout cas notre souhait. On a aussi, on est en train, l'un des membres du groupe, à l'intégrer dans un programme régional aussi de préservation de biodiversité cultivée avec BD, qui est une association sur Montpellier. Pour essayer de faire quelque chose avec déjà connecter les groupes entre nous, ceux qui font ce type de travail similaire dans la région, et puis allier éventuellement quelques chercheurs aussi qui peuvent nous suivre techniquement.
Oui, c'est pas forcément les variétés anciennes qui m'intéressent. Chez les tomates, quand on parle des tomates anciennes, c'est des fois aussi des nouvelles variétés. C'est après des variétés paysannes, on peut parler des variétés paysannes aussi. C'est des variétés qui sont sélectionnées par des paysans ou des semenciers artisanaux. Mm-hmm. Des variétés qui ne sont pas des variétés hybrides.
Comme la Green Zebra, c'est ça?
Oui, la Green Zebra, maintenant on peut l'acheter même au Carrefour.
Oui, la Green Zebra, comme son nom l'indique en anglais, elle est green, donc elle est verte avec des zébrures, avec des petites rayures, jaune, et c'est vrai qu'elle est délicieuse. Oui. C'est un régal,
après,
cette tomate.
Après, il y a encore des meilleures.
Mais du coup, oui, tu fais bien d'insister sur le fait que c'est pas parce que c'est ancien que c'est meilleur.
Voilà.
Il peut y avoir des sélections paysannes récentes qui donnent des choses magnifiques.
Oui. De toute façon, la semence, elle s'adapte, elle change aussi tout le temps, elle s'adapte toujours au sol. Elle ne reste pas toujours pareille.
Stable.
Oui.
Et toi, c'est ça qui t'intéresse, cette expérimentation-là?
Oui, et moi je trouve
en tant que paysanne.
Ben, il peut y avoir aussi des nouvelles variétés paysannes qui sont très très bonnes. Des nouvelles variétés paysannes. Oui, j'expérimente un peu, mais après je n'ai pas trop le temps. Et j'achète... toujours la plus grande partie de mes graines, et j'ai aussi besoin des graines qui sont certifiées en bio. Du coup, moi, je ne prends pas trop des graines à la bourse, des semences.
D'accord.
Ça, c'est une des problématiques de la semence, c'est effectivement les souris. Là, il ne reste pas grand-chose sur ce pied-là. On va récupérer quelques graines quand même.
Pendant que le porte-graines séchait en fait dans le tissu, les souris sont passées par là.
C'est exactement ça. Je pense qu'il va y avoir une bonne ouverture dans le drap, et elles sont allées largement se servir des graines. Elles adorent ça, les souris. Voilà, j'ai pas vu. C'est un peu le piège. Bon, on va bien arriver à en récupérer quelques-unes, et on recommencera l'année prochaine.
Il va falloir prendre des chats dans l'équipe.
Ça fait partie du jeu.
Du coup, vous continuez votre activité ici, votre petit groupe, vous continuez au Buissière l'année prochaine?
Et bien là, on va se réunir, se faire une bonne bouffe tous ensemble, et puis on va discuter un petit peu de tout ce qu'on a vécu cette année. Voilà.
C'était la première année, hein, faut
voilà,
bien préciser.
Voilà, c'était la première année. Moi, je me suis vraiment éclatée, c'était vraiment génial. Ça s'est vraiment passé sans effort, voilà, ça s'est fait vraiment tout seul, c'était vraiment très chouette. Et on va voir l'année prochaine comment on voit les choses des uns et des autres, c'est collectif. Donc on va faire une construction collective aussi.
Super. S'il y a des personnes qui sont intéressées par la question donc des semences, ils peuvent venir à la Bourse aux semences de Sandras, qui aura lieu le 7 novembre et qui est organisée par l'association Les Jardins du Galaison.
Voilà, tout à fait, à partir de 14h, toute l'après-midi, ça sera ouvert donc au public, où il y a une bourse d'échange de semences. Bon, même si vous n'avez pas de semences la première année, vous pouvez venir voir. On a deux bourses différentes. On a une bourse de consommation qui est constituée des variétés dont on n'est pas sûr, où les gens n'étaient pas sûrs, voilà, soit pas identifiés, ou ils ne sont pas sûrs que ça ne se soit pas croisé avec une autre variété. Donc ça, on peut se servir librement. Et puis on a une bourse de reproduction où là, on est sûr des variétés. Et là, c'est vraiment pour les échanges et puis pour reproduire. Voilà.
D'accord. Donc l'idée, c'est quand même de venir avec quelques semences, quelques graines qu'on a, et puis de venir faire du troc.
Voilà, tout à fait, oui. Bon, après, en sachant très bien qu'il y a très peu de gens qui font leurs semences à l'heure actuelle, donc la première année, si les gens n'ont pas, c'est pas dramatique. Mmh. Voilà, il faut à un moment donné s'y mettre et découvrir aussi le milieu, et découvrir ce que c'est, et discuter. Et donc, il n'y a pas de problème pour la première année. Si les gens n'ont pas de semences, il faut venir totalement décomplexé. Il y a la bourse de production, donc pour ça, il n'y a pas de souci. C'est fait donc, pour...
Bienvenue le 7 novembre à 14h à Sandras. Ça se passe où?
Alors, c'est à la salle Nelson Mandela.
À la salle Nelson Mandela. Voilà, vous saurez tout. Et si certaines personnes veulent te contacter, donc c'est Magali Outier.
Voilà, donc Magali Outier. Donc c'est vrai que si
parce que tu
vous
fais des formations pour ceux qui veulent apprendre à faire leur semence.
Voilà, donc la formation de cette année s'est terminée mi-septembre. Là, on a décidé déjà d'en réattaquer une l'année prochaine.
Formation qui dure combien de temps?
On le fait généralement sur 4 jours répartis dans l'année. Donc en début de saison, en février-mars, on en fait une en avril, une en juin et une en septembre. Et à chaque fois, bon, la première est en salle, ça me permet moi de poser les bases botaniques, les bases.
Donc une journée en salle.
Et après, c'est systématiquement avec appuyé sur un jardin. Un jardin ou visite de champ. Où on allie à la fois pratique ou en tout cas visite de champ ou de jardin et théorie qu'on continue à voir.
Très bien. Alors il ne nous reste plus qu'à savoir ton numéro pour pouvoir te contacter.
Voilà, donc c'est le 06 35 36 62 18 06 35 36 62 18 ou cherchez à contacter les Jardins du Galaison, vous trouverez leurs coordonnées sur internet, les Jardins du Galaison.
Merci beaucoup Magali, merci à vous tous, le chouette petit collectif là qui travaille sur les semences, merci Yorinde, ton accueil aux Buissières, merci Ahmed et Sophie de votre présence et de vos témoignages, et puis à bientôt.
My gang will get you.
Retrouvez toutes les émissions des Enfants du Nouveau Monde une semaine sur deux, le dimanche à 19h et le samedi à 13h, et puis quand vous voulez, sur le www.radio16.net.